podcast Passeur de vécu, partie 1, André. Je voulais partager une entrevue avec mon ami québécois André Lavoie. C'est un personnage atypique qui a voulu volontairement aller vers le dépouillement. Il va nous expliquer les raisons et les bénéfices qu'il en a retirés. André, c'est ni un gourou, ni un modèle à suivre. Il parle avec humour et simplicité de ses choix personnels de vie qui le rendent pleinement heureux. Voici sa devise, on est riche des besoins qu'on n'a pas. Cette entrevue a été enregistrée sur le vif, à Montréal, avec un smartphone dans un parc. Il s'agit du parc Lafond. Je suis en compagnie d'André, André Lavoie, qui est poète, blagueur, marcheur, écrivain, humaniste. C'est une personnalité.
Je suis gaspésien. Alors, j'ai une connivence très, très forte avec les Bretons. Mes ancêtres venaient de Rouen, en Normandie. Et je suis gaspésien par ma mère et français par un ami de mon père. ce qui fait que j'ai des liens très forts avec la France, d'autant plus que j'ai marié, j'ai vécu 17 ans avec une Parisienne. Ouais. Et j'adore la France. Je suis chez moi là-bas, je suis le plus francophile des Québécois. J'adore la France pour ses valeurs, j'adore la France pour sa langue, la qualité de la langue, même si on critique souvent les anglicismes, il ne faudrait pas voir ça de cette façon. Il y a beaucoup plus d'anglicismes de la langue ici qu'en France.
Oui.
Et par rapport au cheminement de la vie, je viens d'une famille riche, cossue. Dans un village pauvre où l'argent comptait beaucoup au niveau de la famille, ouais. Et où on avait comme des devoirs. On était un peu esclaves de l'argent. Et c'est curieux à dire, mais c'est souvent comme ça. Et très jeune, j'ai rêvé de me dépouiller. Et toute ma vie, je me suis axé sur le... J'ai eu pour but d'aller vers le dépouillement.
Alors, quel âge t'as eu?
C'est-à-dire que... c'est que je regardais la famille, comment ça agissait, comment on pensait faire de l'argent. On achetait les gens, on achetait ceux qui voulaient se vendre, ceux qui veulent se vendre n'ont pas de valeur, visuellement. Et je me disais, c'est quand même pas ça. Il me semble qu'il y a une autre façon de vivre qui va faire en sorte aussi qu'on n'aura pas mauvaise conscience de vivre avec plus de dépouillement.
Donc, tu es rentré en réaction tout de suite.
Réaction. Ouais. Et j'ai été le mouton noir dans la famille parce que moi, j'allais non pas vers l'accumulement, vers le dépouillement. Et un des plus beaux rêves de dépouillement que j'avais, c'était de me dépouiller de la nécessité de travailler. OK? Si bien que... c'est pas nécessairement facile parce que on a des obligations quand on a des enfants, on a des obligations d'avoir quand même un niveau de vie, d'avoir. Mais à un moment donné, on se laisse aussi happer par ça, le niveau de vie puis les besoins. En fait, on est riche des besoins qu'on n'a pas.
C'est ta maxime, hein? Tu la répètes sur tous les mails.
Et ça fait partie de ma véritable richesse de dire qu'on est riche des besoins qu'on n'a pas. J'ai essayé de me débarrasser au plus possible des besoins, de faire la différence entre un désir et un besoin. Un désir, c'est une chose qu'on voudra avoir, c'est pas nécessairement une chose dont on a besoin. Je peux désirer avoir une piscine dans ma cour de maison, mais j'ai pas besoin d'une piscine. Okay? Mmh. Et c'est toute cette nuance-là qui fait que j'ai eu aussi, dans cette recherche de dépouillement, un besoin de me dire, j'ai peut-être, pas un besoin, mais une volonté de faire la différence entre le travail obligatoire et le travail pour le plaisir ou les activités pour le plaisir.
Ouais.
Et si bien que à l'âge de 47 ans, j'ai perdu le poste que j'occupais à la télévision.
J'ai été licencié.
À la télévision,
ouais,
j'ai été licencié. Et ça a été un bonheur extraordinaire quand j'y repense. Pas sur le coup ça a été difficile, Mais je me suis dit, peut-être que j'ai là l'occasion de vivre le dépouillement. C'est tout, tout se passe au niveau de la tête. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et j'ai pris ma retraite, effectivement, à 47 ans.
T'as pris ça comme une chance, comme une chance.
J'ai vu
mais
ça
quand tu dis comme t'as pris ta retraite, je te coupe, excuse-moi, j'ai peut-être un peu... T'as pris ta retraite, mais en fait, financièrement...
J'avais un tout petit peu d'argent, mais j'ai surtout réduit les besoins, essayé de dépenser le moins possible, puis me dire, ça, c'est un désir, c'est pas un besoin. Je crois qu'à chaque fois que je me suis débarrassé d'un besoin, ou de ce qui semblait être un besoin, je me suis enrichi. Okay? Je m'étais exténué un temps avec beaucoup d'amis alentour qui faisaient la même chose, d'autres personnes dans la société. Je m'étais exténué à courir après le plus. Je me suis tourné vers le moins et j'ai rencontré le surplus.
Voilà.
J'ai eu l'impression qu'à chaque fois...
T'as eu le bénéfice.
J'ai eu le bénéfice et j'ai eu l'impression que le tout petit peu qui arrivait en surplus, c'était extraordinaire, c'était le cadeau. Et ça fait que la retraite, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Ça a été dans le droit fil de ce que j'avais toujours cherché depuis longtemps. Et puis, j'ai voulu aussi la vivre sans, comment je te dirais, sans culpabiliser de prendre ma retraite aussi jeune. Parce que là, on me demandait partout, c'est la formule, qu'est-ce que tu fais de bon? On pose cette question-là.
C'était
qu'est-ce
la
que
question
tu fais de
justement
bon?
Que j'avais un peu préparée.
Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Comment tu fais ta retraite?
Bon, mais là, on ne parle même pas de retraite. Tu as 47 ans, tu ne travailles plus et tu croises les gens qui te connaissent. Qu'est-ce que tu fais de bon, André? Eh bien là, tu n'es pas pour dire que tu es la retraite, parce qu'ils vont dire, là, ils s'enclenchent des discussions puis des échanges là-dessus, ça n'a aucun sens. Écoute, tu devrais retravailler, tu as des enfants, il faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça.
Tu as eu tes leçons de morale, alors?
Oui, mais je ne les voulais pas, OK? Je ne voulais pas qu'on me fasse la morale. Et là, je me suis inventé des réponses qui ont éloigné ce genre de questions. On m'a foutu la paix. C'était moi qui étais capitaine sur mon bateau. Le genre de réponse, c'était « Je suis philosophe autonome » ou « Je suis rienfaisancier à temps complet » ou ce genre de réponse qui faisait qu'il n'y avait pas trop de sous-questions et que je pouvais vivre cette décision-là dans le calme, dans la paix. Et à chaque jour, comprendre un peu plus que j'avais pris la bonne décision de ne pas perdre ma vie, essayer de la gagner. Et par contre, je voudrais dire une chose. Je ne suis pas un modèle à suivre. Je ne vais pas faire gourou. Ça, c'est mon expérience à moi. Avec les sources, la genèse dont j'ai parlé par rapport à mon enfance, par rapport à mon milieu de vie, et ce n'est pas nécessairement transférable à quiconque. Je ne conseillerais pas à personne de prendre sa retraite à 47 ans. Chacun est libre de le faire. Tu peux la prendre à 97 ans si c'est ce qui te fait le plus de bien. Comme tu peux l'apprendre. Moi, je dis que je l'ai pris à 47 ans pour savoir si c'était bon et qu'avoir su que c'était aussi bon, je l'aurais pris à 47 mois. Mais ça, c'est moi, OK? C'est pas exportable, mon expérience. Je suis un monotype, mais mon expérience de vie me dit que le travail, c'est pas la fin en soi. C'est un outil pour être heureux, ce n'est pas une fin. Si on peut s'en passer, on peut vivre heureux.
Alors moi, j'ai une autre approche parce que je connais des gens qui considèrent que quitter le monde du travail, c'est le chaos. Et que tu passes dans les inutiles. C'est un peu choquant, mais comment tu vois ça, toi? Parce que c'est...
Je crois que
les improductifs, les inutiles, on passe dans les retraites. Retraités, on est mis à l'écart, on est en retrait.
Mais tu as des gens qui ont besoin de figurer dans l'album en étant liés au groupe. À la pensée commune, c'est comme un corset. Tu fais partie d'un monde qui est sécurisant Et tu n'as pas besoin d'avoir ta propre épine dorsale pour réfléchir, te tenir debout sur tes propres valeurs, les valeurs qui font que tu es un humain avant d'être un producteur, OK? Puis avant d'être un consommateur, que tu es un être autonome, différent et complètement différent des autres, avec certaines similitudes, mais tu existes, OK, en tant qu'individu. Et quand tu as des difficultés à vivre ça, le milieu du travail devient rassurant. Et tu mets toutes tes billes là-dedans, tu mets toutes tes billes dans le milieu du travail, si bien que quand tu n'as plus de travail, si tu n'as pas développé des passions à l'extérieur qui vont faire que tu vas continuer à exister comme individu, comme personne.
Oui, d'être reconnu.
De te reconnaître d'abord, on s'en fout. La reconnaissance sociale, c'est un cancer jusqu'à un certain point. Et quand tu peux échapper à ça, tu te dis, moi, je suis sur Terre pour être heureux, et je ne suis pas sur la Terre pour être heureux qu'en travaillant. Je suis sur Terre pour être heureux, la vie est courte. J'arrive à la retraite, je prends ma retraite, je m'organise pour être heureux, je suis responsable de mon bonheur. Moi, dans ma maison, c'est écrit sur un grand tableau, mon ordre du jour. Okay? Je prends ça au jour le jour.
Maxime, là.
C'est écrit en haut, ordre du jour, point 1, me lever heureux, point 2, m'occuper de mon bonheur, point 3, me coucher heureux. Je suis responsable de ça. Ce n'est pas la compagnie pour laquelle je travaille, ce n'est pas mon patron, ce ne sont pas mes collègues, ce ne sont pas le fruit de mon labeur au bout de la journée, qu'est-ce que j'ai pu faire. Des fois, je n'en fous pas une ramée et je me couche heureux parce que j'ai dit, j'ai fait ce que je voulais faire. Je ne voulais pas en foutre une ramée, je n'en ai pas foutu une ramée. C'est ma décision, je la goûte, je l'assume et j'en jouis.
Ma question, c'est jusqu'à quel point, quand tu t'es dit, je veux être en dehors, je veux pas être faire le mouton, et puis je me mets en retrait. Et donc, comment tu trouves tes satisfactions en dehors de tout ça? Donc, tu te promènes, tu regardes les gens, tu vis les oiseaux, t'écris. C'est quoi?
Oui,
où tu trouves tes
D'abord, je m'émerveille. OK? Il y a tant de mains pour créer le monde. Il y a tant de mains pour créer ce qu'on voit là. Regarde alentour de nous tout ce qui a été créé, les tables, les bâtiments, les pylônes électriques, tout ça. Regarde tout ça, il y a eu tant de mains. Tant de mains pour le créer, il faudrait au moins qu'il y ait quelques regards pour admirer tout ça. OK? Et déjà, je sens que je participe pleinement au monde si je suis juste admiratif, sans être producteur. Je regarde, je jouis. Et être admiratif aussi des humains. Il y a tant de besoins qui ne relèvent pas de l'argent, qui ne relèvent pas du partage de nourriture, tout ça. Tendre l'oreille, tendre la main. Partager vraiment cette écoute. Partager des expériences de vie. Valoriser les gens en leur faisant miroir de ce qu'ils ont de beau en eux. En soi, c'est un travail. Okay? Et ça ne demande pas de diplôme.
Mais toi, tu es agent de valorisation.
Oui, je me définissais comme un agent de valorisation.
Ouais.
Mais c'est, sans être prétentieux, là. Je me dis que je reconnais d'abord que moi, j'ai besoin aussi de valorisation, pas nécessairement de grosses valorisations sociales. Et quand on me promet un succès bœuf, je vais me faire cuire un œuf, là, tu sais. C'est pas ça qui m'intéresse du tout.
Oui.
C'est pas de publier ce que j'écris, c'est pas...
Oui.
Cette reconnaissance-là, je m'en fous.
C'est le partage.
Mais j'ai besoin de partage.
Oui, oui.
Et pour partager, il faut créer. Et ça m'amène à dire une autre chose à ce propos, c'est que quand tu te dépouilles, tu as quand même des besoins qui t'appartiennent. Dans ces besoins-là, tu as le besoin de créer. Tout être humain essaie de créer, de faire quelque chose, OK? Pas nécessairement rémunéré, pas dans le cadre d'un poste dans une entreprise. Tu as besoin de créer et tu as besoin de partager. Et quand tu n'as pas beaucoup d'argent, Ben pour partager, tu es obligé de créer. Tu réponds à ton besoin de créer, puis tu réponds à ton besoin de partager. OK? Tu es obligé de créer une atmosphère, tu es obligé de créer une réflexion, tu es obligé de créer un milieu où il va y avoir de l'écoute. Et tu partages des choses que tu construis dans le moment présent à deux ou à trois, ou tu comprends?
En fait, tu as plus d'écoute parce que les gens sentent que tu n'attends rien d'eux. Voilà. Et donc, en fait, tout est gratuit. Exactement. Et donc, c'est facile la conversation. Ouais. C'est facile d'aller, plus facile d'aller. Ma question aussi, c'est quand tu dis je vis chichement ou je me contente, mon grand-père, il disait contente-toi de peu et ce peu, tu l'auras. Bon, mais y a un danger à aller trop loin là-dedans? Ou un minimum vital ou des choses, parce que tu peux aller vers le dépouillement ou trop de dépouillement.
Je crois qu'il peut y avoir un danger là. Dans mes recherches de dépouillement, j'ai frisé presque tombé dans l'indigence, ok? Où t'as plus de toi. Où tu es en... Là, tu te crées des besoins. Là. Le toi, c'est une nécessité. Moi, je n'avais pas les reins assez solides pour vivre en itinérant, sans abri. Ceux qui le font et qui vivent heureux, je les admire, mais ils ne doivent pas être nécessairement nombreux. Quand tu ne sais pas où dormir, quand tu n'as pas d'endroit pour te reposer, quand tu as toujours une promiscuité avec tout le monde, tu peux être dérangé constamment, tu as les intempéries, la température, etc., tu es à merci de tout ça. On peut pas dire que tu es dans un climat pour être heureux. Moi, je suis pas un Saint-François d'Assise, là, tu sais, c'est pas mon style, puis je veux pas être un modèle, puis je veux pas être un saint. J'ai des besoins, un fond. J'aime, par exemple, quand je suis chez moi, ne pas entendre les voisins. La promiscuité, le bruit, tout ça. Bon, ben, j'ai travaillé à m'assurer d'être bien dans mon milieu. Pas avec des meubles riches, pas avec des dépenses somptuaires, pas en impressionnant les voisins. D'être tranquille, d'avoir un milieu silencieux pour réfléchir, me lever la nuit, écrire, voir venir l'aube, en toute quiétude, sans être dérangé par les voisins. Bon, mais je peux pas. Ça, pour moi, c'est important.